Nous terminons ce temps de prédication assez vêpres autour du combat spirituel. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, très très brièvement, entrer dans le combat spirituel sans vouloir correspondre à la volonté de Dieu, vaut mieux aller à la plage. Le Seigneur nous appelle à devenir saints. Et c'est important dans notre vie de vouloir devenir saint parce que c'est la volonté de Dieu. Alors qu'on n'en soit pas capable, c'est tout à fait certain, mais ce qui est certain, et encore plus certain que notre incapacité, c'est que le Seigneur veut que nous soyons saints. Donc quand le Seigneur veut quelque chose, il nous donne les moyens. Donc c'est à nous à prendre les moyens pour le devenir et à nous réjouir de vouloir être saints. Donc nous avons vu ça, nous avons vu aussi qu'il était important de réaliser notre unité intérieure. Si nous sommes divisés à l'intérieur de nous-mêmes, quand nous allons aller au combat, ça va être terrible. Parce qu'on va être divisé, on va toujours s'interroger, toujours se poser des questions et ne pas être pleinement dans le combat. Donc le Seigneur nous invite à avoir vraiment une vie eucharistique. Et c'est quoi une vraie vie eucharistique? C'est de tout faire par lui, avec lui et en lui. On nous le rappelle à la messe à chaque fois qu'on y va. Donc voilà, ça c'est, j'aurais envie de dire, les points fondamentaux, il y a eu beaucoup d'autres choses. En ce dernier temps d'enseignement, ah oui, puis quand même, c'est une autre chose extrêmement importante, c'est important d'identifier notre ennemi. Qui est notre ennemi? C'est pas nous-mêmes. Et notre adversaire, le diable, fait tout pour que nous soyons nos propres ennemis, pour que nous entrions en conflit avec nous-mêmes. Et les ennemis, ce ne sont pas non plus les personnes que nous avons en face de nous, ce sont les esprits qui les habitent. Donc il ne faut pas se tromper d'ennemis. Ce n'est pas des adversaires de chair et de sang, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Je vais vous lire simplement, parce qu'aujourd'hui, vous avez bien fait de venir, on remet les armes du combat. Donc, vous ne serez pas venus pour rien, en tout cas, vous allez repartir équipés parfaitement pour le combat spirituel. Alors, c'est assez facile à retenir, c'est dans Éphésiens 6, et les armes du combat, je ne sais pas si celui... Vous savez, on dit que les versets de la Bible ont été faits, parce qu'ils sont tellement bizarrement faits, ces versets, que ça a été fait dans un carrosse qui roulait avec des pierres. Vous voyez, donc ils mettaient des versets comme ils pouvaient. Mais en tout cas, là, c'est bien tombé, parce que c'est les versets 14-18. Donc, vous voyez, c'est de bonne guerre d'avoir ça dans les Éphésiens. Alors, il est dit, au chapitre 6, versets 14-18 de l'Épître aux Éphésiens, « Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Le 18, je le garde pour la fin. Alors, si on regarde un peu cet équipement, je me suis dit, waouh, c'est quand même vraiment un truc de mec. C'est un truc d'homme, à part le fait d'être lorrain et d'avoir une affinité avec Jeanne d'Arc, qui avait ce qu'il fallait pour aller à la bataille. Eh bien, je me dis, c'est quand même pas formidable cet aspect guerrier de la foi. Ça nous parle pas tellement, même si on se rend compte que notre vie de tous les jours, c'est très très souvent un combat. Nous passons notre vie à combattre. Enfin, le jour où on baisse les bras et qu'on ne combat plus, on est foutu, quoi. Donc, c'est important de regarder ces armes de Dieu comme, en fin de compte, autre chose que des armes. Quand nous avons été baptisés, bon, en général, on l'a été enfant, donc on ne se souvient pas tellement, mais moi, on m'avait montré la robe blanche dans laquelle j'avais été baptisé, tout enfant. Alors, nous chantons, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Non, youpi, on dit youpi, on dit youpi. Parce que si on dit Maranatha, les gens vont dire, ouais, c'est encore un araméen qui est à Méréville. Parce que youpi, ils vont vous dire, ah, pourquoi youpi? Alors là, on peut évangéliser, on leur dit qu'on n'a pas le droit de dire Alléluia pendant le carême. Vous voyez, bon, enfin bon, c'est une autre histoire. Nous avons revêtu le Christ. Or, je ne sais pas vous, mais moi, à part ce vêtement blanc, revêtir le Christ, ça ne veut pas dire grand-chose. si ce n'est qu'on le croit quand même, qu'on a revêtu le Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement, pratiquement? Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'avec les armes que nous donne saint Paul, c'est une manière de nous montrer le Christ que nous avons revêtu à l'œuvre en nous et avec nous si nous entrons dans le combat de Dieu. Je prends un exemple, déjà pour commencer, le premier. Il nous invite à prendre, à mettre sur nos reins la ceinture de la vérité. C'est important d'avoir les reins solides. Hein, on le dit d'une entreprise qui a les reins solides. C'est important d'avoir les reins solides. On s'est tous fait des tours de reins dans notre vie. On a beau avoir tout ce qu'on veut, on est quasiment paralysé. On ne peut plus bouger. Donc dans le combat spirituel, la première chose qu'il nous a demandé, c'est d'avoir des reins solides et d'avoir sur les reins la ceinture de la vérité. Et si je vous pose la question, qu'est-ce que la vérité? Ouais, mais toi, t'es ma femme, tu le sais, toi. Elle m'a entendu répéter. La vérité, c'est le Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est avoir le Christ qui soutient nos reins. Vous voyez, donc c'est pas simplement une ceinture, c'est véritablement le Christ qui assure l'assise de nos reins, c'est-à-dire donc de cette partie entre le bas de notre corps et le haut de notre corps. C'est une partie qui nécessite une certaine souplesse. Et dans le combat spirituel, on a besoin d'être souple. Donc, cette vérité pour ceinture, c'est quelque chose d'assez fondamental, tellement fondamental que notre adversaire, le diable, fait une chose extraordinaire. Vous savez que les rois de la contrefaçon, ce n'est pas les Italiens. C'est vraiment le père de la contrefaçon, c'est le diable. Alors, il nous propose une chose qui est très, très chic et que souvent, on met à la place de la ceinture de la vérité. Je ne sais pas si vous avez essayé en famille ou autour de vous de dire que vous aviez la vérité. Là, en général, ça fait très mal. Et qui vous êtes pour avoir la vérité, etc. Alors, le chrétien, souvent un peu penaud, il dit « Oh ben oui, non, mais écoutez, bon, c'est pas grave. » Et alors, c'est là que notre adversaire, le diable, nous propose une ceinture très jolie qui plaît à tout le monde, qui fait très chic, c'est la ceinture de la sincérité. Essayez, vous dites que vous êtes sincère, même si vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien, tout le monde vous dira « Ah ben si t'es sincère, alors. » Donc la sincérité, ça fait très chic, ça passe, tout le monde accepte la sincérité, mais si vous la mettez sur vos reins, ça ne sert strictement à rien. Parce que c'est la vérité qui a besoin de ceindre nos reins. Parce que nous avons besoin d'être dans cette vérité. Le Seigneur nous propose d'avoir la justice pour cuirasse. C'est important d'être protégé. Que là où il y a nos poumons et notre cœur, on ait une bonne protection. Parce que si on manque d'air et si notre cœur est atteint, on est là aussi fortement handicapé dans le combat spirituel. Or, la justice... Vous en avez une définition, vous pourrez regarder dans le détail quand vous rentrerez chez vous, mais dans Matthieu, au chapitre 6, le Seigneur nous dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice comme le font les pharisiens. » Donc la justice, c'est trois choses. C'est fondamentalement, c'est d'être ajusté au plan de Dieu. Fondamentalement, c'est de rentrer dans la volonté de Dieu et d'être le plus en connivence avec la volonté de Dieu. Mais ça ne suffit pas, j'aurais envie de dire, parce que notre vie, elle est en 3D. Maintenant, ils font des écrans de télé en 3D. Les inventeurs de la 3D, c'est pas les techniciens aujourd'hui. La 3D était déjà inventée au temps de la Bible, parce que notre justice et notre cuirasse est faite en trois matériaux. Elle est triple. Elle a une triple matériau qui la rend très solide. C'est le jeûne, la prière et l'aumône. C'est-à-dire donc une vérité dans le jeûne par rapport à soi-même, dans le détachement des choses, une vérité dans la prière, c'est-à-dire dans la relation à Dieu, une deuxième dimension, et une troisième dimension, l'aumône, une vérité dans la relation avec les autres. Être juste, donc, c'est prier, faire l'aumône et jeûner. Une manière de jeûner, on n'est pas obligé de se priver de nourriture, ce qui est un luxe de pouvoir se priver de nourriture quand une grande partie de la planète meurt de faim. Donc, vous voyez, c'est la justice, notre justice est en 3D. Et c'est important pour nous chrétiens de penser en trois dimensions. Notre adversaire, le diable, il va toujours essayer de nous enlever... Vous savez, il y a des lunettes spéciales. Je ne sais pas si vous êtes allé au cinéma voir des films en 3D. Ils vous mettent des lunettes spéciales. Ben, nous avons des lunettes spéciales en tant que chrétiens pour voir en 3D. ce qui donne du relief à notre vie d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça donne du relief d'un seul coup. Quand il y a la dimension de l'esprit qui est en nous, ça donne d'un seul coup aux mêmes événements une profondeur que ça n'avait pas. Eh bien, c'est important pour nous de penser en 3D. Je prends un exemple tout simple. On a l'habitude de penser de manière binaire, en 2D, le bien, le mal. Ce n'est pas la pensée chrétienne, ça, le bien, le mal. Relisez le passage de la femme adultère, où on amène la femme adultère à Jésus. Jésus, il pensait en 3D. Hein. Ça, vous vous en doutez un peu. Cette femme, elle faisait le mal, et on se demandait comment Jésus allait pouvoir faire le bien avec cette situation qui était dans le mal. Donc, Jésus était complètement coincé, parce que s'il disait qu'il ne fallait pas lapider cette femme, eh bien, il était un contrevenant à la loi, donc il était lapidable en potentiellement. Et s'il disait eh bien, que c'était bien, il était à côté de la plaque. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus, pensant en 3D, il introduit la miséricorde. Il introduit une dimension de miséricorde, un échappatoire. Si nous pensons en termes de bien et de mal uniquement, nous sommes coincés. Il faut toujours penser en 3D, toujours trouver la troisième voie, cette voie de la miséricorde, de la grâce de Dieu qui est toujours à l'œuvre. Il y a toujours une porte de sortie par la grâce de Dieu. Et Jésus n'était pas dupe, il lui a dit « Va maintenant et ne pêche plus ». Donc voilà, c'est, vous voyez, notre justice est importante. Les chaussures, ça c'est capital de mettre des bonnes chaussures, mal chaussées. Déjà quand on va faire du shopping, c'est déjà dramatique. Mais alors si on va au combat mal chaussé, c'est vraiment catastrophique. Alors c'est important d'avoir des bonnes chaussures parce que c'est important que nos pas nous conduisent sur les chemins de Dieu. Et donc, les bonnes chaussures, c'est avoir du zèle en nous pour témoigner de notre foi, pour manifester l'amour de Dieu, pour annoncer l'évangile de la paix. Nos pas nous conduisent alors là sur les chemins de Dieu. Ensuite, il nous est dit de prendre le bouclier de la foi. Dans la Bible, très souvent, Dieu est comparé à un bouclier. Le Seigneur nous protège, il est notre bouclier, il est notre abri, tous les psaumes le disent, tout l'Ancien Testament le dit. Donc c'est important de voir notre foi, de mettre en œuvre notre foi comme une protection au moment du combat spirituel. On pourrait en parler beaucoup plus longuement, mais le Père Gilles m'a donné 20 minutes, donc... Il en reste 7, donc on va essayer de les utiliser au mieux. Donc, c'est important d'avoir des bonnes chaussures. Oh, je vous livre une anecdote trop rigolote. On était jeunes convertis, donc on était assez brûlants et il ne fallait pas trop s'approcher, les gens prenaient feu. Et puis, d'un seul coup, on voit un de nos frères qui est en train de témoigner. Puis on regardait ses chaussures, comme ça on était derrière une table, il y avait une nappe. Puis d'un seul coup, on voit un frère qui descend sous la table et qui sort son couteau et qui attaque les chaussures de notre frère. On se demandait ce qu'il faisait, parce qu'il avait des chaussures, il lui coupait l'étiquette de la chaussure, il avait des chaussures Mephisto. Alors c'est vrai que c'est confortable, des chaussures Mephisto, mais quand je vois un chrétien, moi, qui a des chaussures Mephisto, ça m'en fout. Je n'en peux plus. Parce qu'il y a des bonnes marques, on peut vous donner des bonnes marques où vous avez les pieds bien à l'aise. Tu n'as pas ça, Maïté. Tu n'as pas des Mephisto. Bon. Mais quand je vois des chrétiens qui ont des chaussures Mephisto marques avec l'estampille du diable, moi je me dis, c'est quand même pas possible. Quoi. C'est les chaussures de l'évangile de la... Gilles a des chaussures en Mephisto, non? Non, bon, ouf, Dieu soit loué. Gloire à Dieu. C'est redoutable. Nous devons avoir des chaussures en zep. Zèle à annoncer l'évangile de la paix. Voilà, ça c'est les chaussures que nous propose le Seigneur, il nous les donne. Et puis, il nous dit ensuite, et ça c'est quelque chose d'important qu'il faut souligner, recevez le casque du salut. Alors ça c'est important parce que, je ne sais pas comment vous avez été élevé, mais moi j'ai été élevé encore à l'ancienne. On était encore au latin quand j'étais tout petit, et on a été élevé à l'ancienne à coup de volonté. C'est-à-dire, tu vas faire ton salut. Tu vas le faire, ton salut. Et tu le fais avec tes forces et avec ta volonté. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais en tout cas, de toute façon, on est mal barré, dans tous les cas. Parce que d'abord, souvent, on n'y arrive pas. Les trois quarts du temps, on n'y arrive pas, on va dire, si ce n'est les 99% du temps, on n'y arrive pas. Et puis, le jour où on croit qu'on y est arrivé, c'est pire que tout. D'ailleurs, Jésus, les apôtres lui disent, mais qui donc peut être sauvé? Et tout le monde est horrifié. Et Jésus nous dit, personne ne peut être sauvé. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut nous sauver. Alors, c'est important d'être libéré de la volonté d'être sauvé. C'est important d'être libéré de ça, parce que le Seigneur nous a sauvés par son sacrifice sur la croix. C'est par son sacrifice sur la croix que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos mérites. Et si nous croyons qu'avec nos mérites, nous allons être sauvés, c'est la meilleure manière d'être perdu. Mais parce que le Christ nous a sauvés, parce qu'il est mort par amour pour nous sur la croix, nous allons vivre selon sa volonté, nous allons manifester son amour. C'est très très différent. On n'est plus des êtres crispés à essayer d'être sauvés, puis mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait qui va faire que je ne serai pas sauvé. Et ça nous est dit, recevez le casque du salut. Donc, le salut, c'est quelque chose que l'on reçoit de Dieu, ce n'est pas quelque chose à faire. Et c'est parce que nous sommes sauvés par le Seigneur que nous sommes libres et que nous sommes capables d'aimer, que nous sommes capables de manifester la grâce et l'amour de Dieu. C'est très différent dans nos vies. Et si nous ne faisons pas cette bascule dans nos vies, nous avons une vie de chrétien qui est redoutablement dangereuse et surtout, on n'a plus la joie. Quoi. On n'a plus la joie d'être sauvé. Hein. Ayons la joie d'être sauvé. Voilà. Qu'un esprit généreux nous soutienne aussi. Psaume 50. Le glaive de l'esprit, là encore, c'est le Christ, parce que le Christ, c'est la parole de Dieu, le Verbe de Dieu. La parole de Dieu, c'est le Christ. Le casque du salut, celui qui nous sauve, c'est le Christ. Voyez combien tout ce que je vous ai montré de ces armes que Paul nous donne, ce n'est ni plus ni moins que des visages du Christ à l'œuvre dans nos vies, si nous acceptons de revêtir véritablement le Christ. Pour terminer, vivez dans la prière et les supplications, priez en tout temps, dans l'Esprit. C'est important de prier en demandant au Seigneur son Esprit. C'est la seule prière dont on est sûr qu'on est exaucé. Vous qui êtes mauvais, qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus notre Père qui est dans le ciel vous donnera l'Esprit Saint si vous le lui demandez. Donc demandons l'Esprit pour prier dans l'Esprit, pour entrer dans le plan de Dieu dans nos vies. Accordez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints à l'époque, ça voulait dire tous les chrétiens. Donc voilà, c'est important de pouvoir, étant revêtu du Christ, d'entrer dans une vie de prière et dans une vie où nous nous laissons guider par l'Esprit du Seigneur. Je pourrais vous parler encore beaucoup plus longuement du combat spirituel. Simplement, c'est la dernière fois que nous nous voyons. Je reviens, j'étais à Metz il y a 2 jours et il y a une radio qui m'a demandé d'enregistrer une chronique pour après le carême. Pour après le carême. Alors, qu'est-ce qu'on fait après le carême ? Parce qu'on a l'habitude de voir le carême comme un temps de combat spirituel. Alors on prend des résolutions, on prend des tas de choses, on se fait un petit coin prière, on se met des bougies, on se met une icône, on décide d'accorder du temps, on essaye d'être meilleur. Puis à la fin du carême, waouh, on sort, on est crevé parce que ça a été redoutable, on range tout et on reprend une vie normale. Vu qu'on entend parler que Jésus est ressuscité à la messe de Pâques, on a l'impression d'avoir contribué à sa résurrection, et c'est tant mieux, quoi. Or, je pense que le carême, il faut beaucoup plus le voir comme un temps d'entraînement spirituel, parce que le combat, en réalité, c'est pendant le temps ordinaire que nous avons à le livrer. Pour faire du temps ordinaire un temps extraordinaire. Et si vous regardez, d'ailleurs, Jésus, après ses 40 jours au désert, quand il est sorti du désert, il n'est pas allé faire de la plongée sous-marine au bord de la mer Rouge. Il est allé enseigner les nations. Il est allé proclamer la bonne nouvelle. Donc le carême est vraiment un temps d'entraînement spirituel pour que nous puissions ensuite, dans le temps ordinaire, manifester la grâce l'amour de Dieu partout où il nous envoie. Alors, bon temps ordinaire, j'aurais envie de dire.